Alors, sommes-nous reconnaissants envers Dieu? Je constate dans ce monde, il y a deux sortes de personnes. La première sorte de personnes, elles sont reconnaissantes envers Dieu. La deuxième, elles sont pas reconnaissantes. Donc, pour moi, elles sont ingrats. Nous allons voir dans la Bible ce que dit à propos des personnes reconnaissantes. Tout d'abord, nous avons aller dans l'Ancien Testament. Oui, bon, vous laissez, restez dans le plan. Alors, j'ai parcouru la Bible pour trouver les personnes qui ont présenté leur reconnaissance à Dieu. La toute première personne, c'est Abel. Dans Genèse 4, Abel a offert une offrande à Dieu et Dieu a créé son offrande. La deuxième, c'est Noé. Dans Genèse 8, 20, quand Noé est sorti de l'arche après le déluge avec ses 7 membres de sa famille, c'est dans Genèse 12, versets 7 à 8, il bâtit un autel à l'Éternel, il invoqua le nom de l'Éternel. Ensuite, j'ai trouvé que Léa aussi, la première femme de Jacob, qui n'est pas aimée par Jacob, mais c'est par ruse de son beau-père qui l'a forcé à épouser. Jacob aimait beaucoup Rachel, non, il n'aime pas Léa, mais l'Éternel a vraiment, à travers les 4 noms qu'elle a donnés à ses enfants, ça montre bien que Léa vraiment reconnaissant à l'Éternel. Alors, le premier fils, c'est Ruben. Elle a dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Le deuxième fils, Siméon, elle dit, l'Éternel a entendu que je ne suis pas aimée, il m'a accordé celui-ci. Le troisième, encore un fils, Lévi. Alors, elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Lévi s'est attaché. Judas, ça, c'est le summum, 4 fils. Alors, Léa s'écrit, je louerai l'Éternel. Voilà, vraiment, elle a eu 4 fils et elle est reconnaissante envers le Seigneur. Après, il y a Joseph, c'est pareil. Il a été vendu par les frères en Égypte. Il a eu une femme égyptienne, mais il a eu 2 enfants. Et c'est pareil à travers le nom qu'il a donné à ses enfants, ça montre bien qu'il est reconnaissant envers Dieu. Le premier fils s'appelle Manassé. Joseph dit, Dieu m'a fait oublier toute ma famille. Et le deuxième, pareil, un fils, Éphraïm. Joseph il dit, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Ensuite, dans Moïse, dans l'Exode, quand après qu'ils ont été livrés de l'armée des pharaons, ils sont enfoulés, Moïse avec les Israélites ont chanté une cantique à l'Éternel. Et c'est un cantique, le cantique de la délivrance. Et j'ai lu dans Apocalypse, plus tard, on va chanter aussi ce cantique. Ce cantique de Moïse et notre cantique nouvelle. Et Myriam, elle a suivi avec les femmes, elle a dansé, elle a loué Seigneur. Donc, ils sont vraiment reconnaissants. Et ensuite, cette semaine, j'ai lu Lévitique. Et là, j'ai vraiment commencé à encore mieux comprendre. Donc, Dieu a donné les 5 sacrifices. Il y en a 2, les offrandes végétales et le sacrifice de la paix ou la sacrifice d'action de grâce ou sacrifice de communion, c'est la même. Dans ces 2 sacrifices, Dieu donne au peuple Israël de pouvoir honorer Dieu et de pouvoir rendre hommage à Dieu et de présenter la reconnaissance envers Dieu. Souvent, ces 2 sacrifices accompagnent le premier qui est Holocauste, qui est une demande, un sacrifice pour expiation du péché. Le plus grand recommandement de Dieu, c'est la Pâque. Est-ce que vous savez ce que c'est la Pâque dans l'Ancien Testament? C'est quel jour du mois au calendrier juif? C'est le premier mois au 14e jour. En fait, c'est pour célébrer la nuit où ils sont sortis précipitamment de l'Égypte. En fait, c'est au 10e jour du premier mois, Dieu a dit à Moïse, vous leur dites qu'ils prennent un agneau ou un chevreau par famille, sans défaut, mâle, de garder jusqu'à 14e jour. Et c'est seulement au 14e jour, au coucher du soleil, ils vont sacrifier l'agneau, mettre son sang sur les deux montants, la porte et le linteau, ils vont préparer la viande est rôtie au feu, ils vont manger avec des pains sans levain et les herbes amères et ne rien laisser, il faut brûler le reste de l'homme au feu demain. Il faut qu'ils mangent à une ceinture à la taille, un bâton, des sandales aux pieds, prêtes à partir. Parce que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est passé dans chez les Égyptiens. Ils ont tué tous les premiers mâles, les premiers-nés mâles, hommes et animaux. Mais chez le peuple juif, ils sont sauvés grâce au sang de l'agneau. Et ça préfigure le sang de Jésus-Christ qu'on a chanté tout à l'heure, crucifié pour nous. Nous sommes sauvés de la condamnation de mort par Jésus-Christ, la mort du Seigneur. Voilà. Après, je vais aller sur les rois. Je trouve vraiment le roi David, c'est le roi qui a le plus composé, le plus de psaumes. Le chant éternel, notre Seigneur, que ton nom soit magnifique et tout ça, c'est dans le psaume 8. Un autre chant que nous avons chanté, je louerai l'éternel de tout mon cœur, c'est dans le psaume 9. Et là, le psaume 23, je pense, c'est le plus connu de tous. Est-ce qu'on peut le citer sans... On va le dire ensemble. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, David, il sait de quoi qu'il parle. Il a été roi d'Israël quand il était ado, peut-être vers 15-16 ans, mais il est seulement demi-roi à l'âge de 30 ans. Et pendant plusieurs années, il a été pourchassé, traqué par le roi Saul, qui cherche à avoir sa peau. Donc il sait de quoi il parle. Et quand il parle « passer dans l'ombre de la vallée de la mort », en fait, il dit, c'était souligné, c'était pour arrêter pour aller du Judée en Galilée, il faut passer par ça m'a échappé le nom de la ville. La vallée de l'époque, c'est pas comme nous, on peut traverser d'un village à l'autre sans étant attaqué par les brigands. À l'époque, il y a des brigands, il y a tout le monde et tout ça. Quand ils traversent l'ombre, c'est Jéricho, j'ai un trou. Quand ils passent par Jéricho et là, c'est vraiment très très dangereux. Voilà. Bon, ensuite, il y a le psaume 78. C'est pas David, c'est un psalmiste. Il raconte l'œuvre du salut, la main de Dieu pour Israël. Et il, Je vais vous lire une partie, mais c'est vraiment c'est pour nous le faire aussi. Le psaume 78, je vais vous lire du 1 jusqu'à 7. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies, il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants, pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu, et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres. Voilà. C'est vraiment, ici, vraiment, il ordonne aux parents de raconter des œuvres de Dieu aux descendants, génération en génération. Pourquoi? Pour que, devenus grands, ils mettent confiance dans le Seigneur. Je pense que c'est à nous, tous les parents, même les grands frères, les grands sœurs, de vraiment parler des bienfaits de Dieu dans notre vie, dans la vie des autres, pour que les autres savent et connaissent Dieu, quoi. Et puis, j'ai regardé aussi, j'ai trouvé aussi un païen, le général Naaman, le Syrien, qui a été guéri de la lèpre en allant voir Élisée. Après d'être guéri, il est reconnaissant, il a rejeté d'adorer le Dieu des Syriens et il a pris un peu de terre, Israël, pour adorer le Dieu d'Israël. Voilà. Et puis, dans l'Ancien Testament, dans les groupes qui ne sont pas reconnaissants, qui sont ingrats, alors, il y a tous les rois du royaume du Nord, à partir du premier roi Jéroboam jusqu'au dernier, et le peuple Israël, la plupart du temps. Nous voyons dans Juges, à chaque fois que le chef, le leader spirituel est mort, il oublie l'Éternel, ils vont vers les autres dieux. Dieu les punit par les jugements, ont envoyé les ennemis qui les écrasent, ils pleurent, ils supplient l'Éternel, Dieu les libère, donne un chef, après, ils obéissent à Dieu pendant toute la vie du chef, et après, hop, rebelote. Est-ce que c'est aussi un peu pour nous? J'espère que non, parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. Donc, mais à l'époque, c'est comme ça. Le peuple d'Israël, ils ont terminé par être détruits, le royaume, en 586 avant Jésus-Christ. Maintenant, on va voir dans le Nouveau Testament, pendant le ministère de Jésus-Christ. Jésus lui-même nous donne l'exemple. Dans j'ai pris juste Jean 6, 11, quand il a multiplié le pain, les 5 pains et 2 poissons, il a remercié Dieu et après il a fait le miracle. Après, dans Jean 11, 41, pareil, avant de ressusciter Lazare, il a aussi prié le Seigneur. Et là, donc Jésus nous donne déjà l'exemple d'être reconnaissant envers Dieu. Voilà. Et après, j'ai trouvé que la femme samaritaine, quand Jésus lui a parlé de la vie éternelle, elle a compris. Après, elle a même pas honte. Normalement, elle a honte. Elle est allée chercher de l'eau à midi. Là, il fait très chaud. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas être vue par les autres personnes. Mais là, Jésus l'a vraiment... Jésus est allé exprès à Samarie pour la trouver et pour la sauver. Donc, une fois sauvée par le Seigneur, elle est libérée de sa honte. Elle est allée raconter sa vie aux autres pour amener les autres au Seigneur. Puis... Ensuite, il y a l'aveugle né qui est guéri. Pareil, les pharisiens lui ont répété, ont interrogé X fois. Et quand Jésus lui a dit, je suis... Non, vous restez sur le psaume 23. Donc, on la reconnaît aussi. Quand il a su que le Jésus est le Seigneur qui l'a guéri, il s'est prosterné. Il a rendu grâce au Seigneur. Le plus fort, c'était dans Marc 5, 1 à 20. L'homme qui est habité par une légion de démons, quand il est guéri, il a voulu suivre le Seigneur. Mais Jésus a dit non, va dans ta maison, vers les tiens, raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et c'est ce qu'il a fait. Il rend témoignage à Dieu, il est reconnaissant. Ensuite, la belle-mère de Pierre. Elle a la fièvre. Jésus l'a guéri sa fièvre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas danser après. Elle va servir le Seigneur tout de suite. Bon, j'ai terminé avec deux autres femmes. Une femme et deux hommes. Après, c'est Marie qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus et essuyé avec les cheveux. Alors Judas disait que ça coûte très cher, on aurait pu le donner aux pauvres. Mais le Seigneur a dit, c'est vraiment ce qu'elle a fait, c'est une reconnaissance parce que ses péchés sont pardonnés. Ensuite, il y a Joseph d'Arimathée qui a eu le courage d'aller demander et récupérer le corps du Seigneur, mettre dans le tombeau neuf, personne n'a été. Et Nicodème, cette fois-ci, il n'a plus peur, il vient avec Joseph, il a amené un mélange de 30 kilos de myrrhe et aloé. Voilà, toutes ces personnes. Ensuite, il y a Paul qui est très reconnaissant envers le Seigneur. À chaque fois, dans tous ses épîtres, il rend grâce à Dieu, il remercie Dieu pour tous ces chrétiens qu'il écrit, à part l'épître de Galates, si vous faites, vous lisez. Les Galates n'ont pas reçu la reconnaissance de Dieu, de Paul pour Dieu. Voilà. Ah oui. Après. Dans le groupe 2, les personnes ingrats, ce sont à l'époque de Jésus, c'est Judas lui-même qui a trahi Jésus, qui a vendu Jésus. Les pharisiens, tous ceux qui se croient propres, purs, en respectant les rites religieux. Les pharisiens, les sadduciens, les chefs, les scribes, et la foule aussi. La foule. La première fois, Jésus est rentré dans Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hosanna. Ils ont mis les manteaux et tout. Mais après, quelques jours après, quand les pharisiens, les chefs, ils ont dit crucifiez-le, qu'est-ce qu'ils ont crié? Ils ont crié aussi. Donc c'est vraiment, ils sont changés rapidement, quoi. Voilà. Et les gens de ce monde, les gens de notre monde, Paul l'a écrit dans Romains 1, 18 à 23, qu'ils connaissent Dieu et la loi de Dieu par la créature, comme Samuel tout à l'heure, il a dit, quand il est monté sur la montagne, on voit vraiment le beau paysage. Ça, c'est vraiment super, les païens. Nous, avant de croire Jésus, c'est pareil. Nous voyons tout, c'était offert. Nous n'avons pas pensé, c'est Dieu qui nous a donné toutes ces merveilleuses choses. Et Samuel, il a compris, il a dit que c'est vraiment le Seigneur qui nous a donné tout ça. Voilà. Maintenant, on doit voir les chrétiens contemporains de notre époque. Alors, est-ce que nous sommes reconnaissants envers Dieu? On va faire un sondage. Je vais vous faire faites par deux. Examinez-vous et partagez un peu. Est-ce que depuis que vous êtes converti, vous êtes peut-être, on va dire depuis que vous êtes baptisé, est-ce que vous êtes tu es toujours reconnaissant envers le Seigneur? Ou pas beaucoup, ou beaucoup, ou je vous donne 5 à 10 minutes. Mettez-vous par deux. J'invite un frère et puis une sœur de partager ce qu'elle a. Alors, est-ce que c'est facile de dire merci au Seigneur? Oui ou non? Bon, pas encore. Oui ou non? C'est merci Seigneur. Est-ce que c'est facile ou pas? Oui? Lève la main ceux qui disent c'est facile. Dire de nos cœurs aussi, hein? D'accord, ok. Bon. Mais dire merci au Seigneur quand tout va bien, tout le monde le fait. Mais quand tout va mal, est-ce qu'on le dit? On dit merci encore? Au bout des doigts, des lèvres. Justement, je pense que Paul, il a dit, remercier Dieu en toutes circonstances. C'est toutes circonstances. Pour moi et pour toi. Nous, on a vraiment à apprendre. Alors maintenant, j'ai un peu partagé avec vous ce que Dieu m'a fait dans ma vie. Un tout petit peu, je ne vais pas vous détailler parce que c'est tellement long. Déjà, je remercie le Seigneur parce que je suis née au Cambodge. C'est un pays, à l'époque, c'était en paix. Donc, je pense à maintenant quelqu'un qui est né dans un pays en guerre. Il y a ça. Après, je suis née dans une famille dont les parents sont, ils s'entendent bien ensemble. Donc, j'ai jamais vu mes parents s'engueuler, des choses comme ça. Donc, j'ai eu vraiment une enfance heureuse. Et puis, je pense que mon caractère et tout, ça vient de là. Et puis, merci Seigneur, j'ai pas fait des crises d'ado. Je sais pas si parmi vous en a fait. Parce que j'ai pas eu l'occasion, parce qu'à 14 ans, j'ai quitté mes parents. Je suis déjà larguée seule à Hong Kong, comme une grande à 14 ans. Donc, j'ai habité un an complet chez une tante. Donc, je vais à l'école, je reviens. Donc, à l'époque là, je peux faire tout ce que je veux, quoi. Mais merci Seigneur, parce que pareil. Mais tout ça, je l'ai vu après. Je suis convertie à l'âge de 45 ans. Mais j'ai regardé toute ma vie depuis ma naissance jusqu'à maintenant, 55 ans. Je dis Seigneur, t'as été avec moi, tu m'as béni depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je voulais vous dire, c'est pour vous, je pense, c'est pareil. Dieu est avec nous depuis ma naissance. David l'a dit dans son psaume. Donc, quand j'étais à Hong Kong, moi, je remercie le Seigneur parce que je suis quelqu'un de très studieuse, très sérieuse. Donc, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les études. À l'époque, les garçons, non, merci. Donc, c'était vraiment que les études. Je vise toujours la première de la classe. Donc, bon, heureusement, Dieu m'a donné aussi le don pour ça, mais bon, c'est, voilà. C'est pour ça, après, j'ai tendance à comparer les autres à moi, puis je dis, pourquoi il n'est pas comme moi? Mais bon, heureusement, par la suite, dans une église, j'ai une soeur qui me dit, tu sais, personne n'est comme toi, t'es quand même... bon, mais il y a d'autres qui sont plus forts que moi encore, hein. Donc, voilà, il y a vraiment ça, et surtout après, parce qu'à Hong Kong, j'ai le don des langues aussi, je pense. Parce qu'au Cambodge, mon chinois, je l'ai appris en maternelle. Et après, un an en privé à la maison. Ensuite, je suis allée à l'école cambodgienne. Alors, j'apprenais le cambodgien et le français en même temps. Dans le chinois, je l'ai entretenu en allant au cinéma, voir les films d'amour. Et lisez les à l'époque au Cambodge, il y a pas de médiathèque, mais il y a des librairies qui louent les livres pour pas très cher. Donc toute mon argent dans ma poche est là-dedans. Je louais tous les romans d'amour, tous les romans kung-fu. Je suis devenue un super forte. Tous les romans kung-fu, j'ai tout lu. Mais maintenant je me suis rendu compte, j'ai appris le chinois dans ces romans. Tout ça, quoi. Et pour ça, après, à cause de la guerre, donc j'ai parti, là, je remercie le Seigneur, j'ai pas connu l'exode. Khmer Rouge et tout ça. Je suis partie en 72. Les Khmer Rouge sont arrivés en 75. J'ai eu les membres de mes cousins, les cousines, ils sont passés par l'exode. Ils sont partis de Phnom Penh, aller à pied jusqu'à Saigon. Ils ont vu des cadavres et tout ça. Moi, rien. J'étais cool à Hong Kong, là. Voilà, quoi. Donc ça, je remercie le Seigneur parce que vraiment... Et à Hong Kong, j'ai fait les études en anglais et en France, en chinois. Et l'anglais que j'ai fait pendant 4 ans, de 6e au 3e, ça m'a permis que l'année dernière, quand je suis allée en mission au Cambodge, j'ai utilisé l'anglais que j'ai appris. Donc du coup, j'ai vraiment tout ce qu'on pouvait bien, ce qui est mieux. Je me suis dit, Seigneur, si je n'aurais pas été à Hong Kong pour les 4 ans d'anglais... Parce que je vois, c'est pas une critique, mais c'est une constatation. L'anglais que vous apprenez en France, j'ai l'impression que c'est pas le niveau. Peut-être en dehors de Mike et Clément, peut-être, hein, ou d'autres encore. Bon, j'ai découvert ça parce que au Cambodge, ce n'est plus le français qui parle, c'est l'anglais. Donc, j'ai perdu le cambodgien, donc voilà, c'est franchement. Et après, juste vous dire, quand je suis arrivée en France, j'avais 18 ans, j'ai un peu de base de français à l'école primaire. Je connaissais la conjugaison, tout ça, c'est tout, hein. Et un an avant de venir, je suis allée à l'Alliance pour français apprendre le français. C'était la famille québécoise, là, je sais pas si vous connaissez. C'était comment vous appelez-vous, machin, comme ça. Et je suis arrivée en France, mon frère, il a bien fait. Il ne m'a pas laissée chez mes cousins, cousines qui parlent que le chinois. Il m'a mis en internat à Nancy. Donc là, je suis vraiment expatriée, je suis avec les Français. Donc là, je suis obligée. Et merci Seigneur aussi parce que je passais du niveau anglais, 3e. Au niveau français, seconde. J'avais un bon bulletin, j'ai amené, dont la directrice, là je remercie le Seigneur parce que c'est le Seigneur encore, elle a dit, tu essayes. Elle m'a donné la chance d'essayer. Donc j'ai fait seconde, première terminale en français, péniblement, mais j'ai passé, j'ai pas redoublé, merci Seigneur, parce que pareil, j'étais toujours dans mes livres. Le dictionnaire franco-chinois, il est fouillé, je sais pas quoi, une fois, dans là. Et puis en plus, merci Seigneur, parce que dès que je suis arrivée à Nancy, la directrice, c'est sympa. Après, l'internat ferme pendant les vacances et certains week-ends encore. Et à l'époque, j'avais pas l'argent hein, pour payer billets pour faire Nancy-Paris. Donc il faut une correspondance. Il y a une assistante sociale, elle s'est occupée de tout ça. Elle m'a même fait la demande de la bourse pour moi. J'ai rien demandé, la bourse Tom. Elle a trouvé une correspondante pour moi. C'est une dame qui est veuve, qui n'est pas très riche, mais elle veut bien me loger, nourrir, gratos, pendant que l'internat fermé. Cette dame-là, j'ai contact avec elle jusqu'à 10 ans à peu près. Après, voilà, c'est franchement tout ça, vraiment merci Seigneur. Et dans l'internat, la première dissertation en français que je dois faire, je ne savais pas quoi faire. En anglais, je veux bien, mais en français, je suis allée voir la prof, j'ai demandé, madame, j'ai expliqué mon cas. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle me dit, débrouillez-vous. J'allais presque pleurer, mais bon, je n'ai pas pleuré devant elle. Bon, je suis rentrée à l'internat. À l'époque, en internat, c'était bien. On n'était pas par deux. C'était la moitié de ça. On était une dizaine de filles dedans. Chacun a un bureau. Chacun travaille comme ça. Il y a une fille, pour moi, c'est un ange que le Seigneur a envoyé. Elle s'appelle Christine. Elle s'est occupée de moi. Elle m'a pris en main. Elle m'a vraiment aidée à faire vraiment la première dissertation en français. Et après, j'avais toujours du mal parce que le prof français, en première, j'avais un prof français non-voyant. Non, oui, c'est ça. Et il m'écrit toujours « expression chinoise ». Je traduisais mes phrases chinoises en français. Voilà. Ça, mais après, c'était... Et la fille Christine, ce qu'elle a fait le plus, ça m'a touchée. Elle a pris tout mon linge, faire laver chez elle, me ramener après. et m'invite chez elle quand c'est fermé. Et grâce à elle, toutes les autres filles font pareil. Donc du coup, je suis invitée par toutes les filles de l'internat. Merci Seigneur, parce que donc ça, vraiment super, parce que moi qui étais en ville, et là, ces filles, elles habitaient dans les campagnes. J'ai vu comment traire les vaches, comment élever les poulets. Vraiment, j'ai bu du lait de vache frais comme ça, à la traire. Merci Seigneur, tout ça, super. Voilà, pour passer pour ça. C'est vraiment super. Je passe quand je suis allée à la fac, pour la première, deuxième année. À l'époque, je ne savais pas qu'on peut louer en CTU. Du coup, les résidents pour étudiants, qui n'est pas cher, mais je ne savais pas ça. Comme à côté de chez moi, il y avait une pension des catholiques, ça s'appelle le Cénac. Ma correspondante, elle m'a amené souvent vers là, et là, je suis en bonne... je connais bien les sœurs là-bas. Du coup, je suis allée la voir, j'ai demandé, est-ce que, en partant à l'internat pour faire ma fin de médecine, est-ce que vous pouvez me loger gratuitement? J'ai pas de sous. Hein, comme dit Joël, bon, Louis. Donc, mais à ma grande surprise, merci Seigneur, elle l'a accepté. À une condition. Je fais la plonge le week-end pour les gens qui viennent passer la retraite là-bas. Avant, il y a les gens, les catholiques, ils vont passer la retraite. Vous savez quoi? Pendant les 2 ans, j'étais là-bas. Donc, je suis logée, nourrie matin et soir. Parce qu'à midi, je mange à la fac. Quand je lavais les vaisselles pour les gens, mais en fait, c'est pour mettre, c'est rien du tout. Je me suis dit, les gens, ils sont bêtes. Ils payent l'argent, ils pourront payer leur temps, et ils vont faire la retraite. C'est quoi ça? Alors que maintenant, je le fais. C'est pour ça que le Seigneur est humoristique. Mais à l'époque, je dis, ils sont vraiment bêtes. Ils jettent de l'argent en l'air, ils jettent du temps en l'air. Moi, je fais mes études, moi, je sais tout ça. Bref, bon. Alors, après, le Seigneur, la fac est très loin de la... Bon, là où j'habite est très loin de la fac de médecine. Le Seigneur m'a donné 2 chauffeurs, gratos. Je te dis, j'étais dans mon année... Pourtant, à l'époque, en médecine comme maintenant, hein, normalement, tout le monde est ennemi. Parce que c'est un numerus clausus dans les premières passes. Mais là, non, c'est 2 garçons, ils sont vraiment sympas, ils habitent près de chez moi. J'ai même pas demandé, hein, c'est eux qui m'ont proposé cette fois-ci. Ils me disent, tu veux qu'on vienne te chercher? Bah oui, pourquoi pas. Donc, tous les matins, ils viennent me chercher avec 1-2 chevaux, c'est pas grave, hein. Là, bref, bon, en rentrant, des fois je rentre avec eux, des fois je rentre pas avec, mais franchement, là, quand je repense, Seigneur, c'est super. Voilà, pour vous dire, c'est franchement, il n'y a rien à dire. Je dis, Seigneur, il y a plein de choses, hein, comme ça. Puis là, juste un peu, c'est que il y a 10 ans, 2003, 2000, bientôt 11 ans, le Seigneur m'a fait partir. On habitait à Forbach. Je sais pas, vous connaissez Forbach ou Kerbach, nord-est de la France, au-dessus de Nancy et Metz. Parce que j'ai fait mes études à Nancy, j'ai connu mon mari à Nancy, on s'est mariés à Forbach, donc on est allé à Forbach, on a habité. Laurent, il est vraiment né, il a passé son enfance à Forbach. Clément a passé un peu d'enfance à Nancy, après à Forbach. Il y a 11 ans, le Seigneur m'a fait... Pour moi, je pense que c'est le Seigneur. Sinon, je n'aurais pas connu le Seigneur et je ne serais pas ici avec vous. Parce qu'à Kerbach, je m'ennuyais à l'époque. J'avais tout eu, mais je n'étais pas heureuse dans ma vie. J'avais un vide. Comme mes parents habitaient sur l'Ogne, comme je les ai quittés assez longtemps. À 14 ans, je les ai quittés. À 15 ans, j'ai retrouvé, mais à 18 ans, j'ai recuté. En fait, je n'ai pas beaucoup vécu avec eux. Je me suis dit, maintenant, ils sont âgés. Ma mère, elle m'a dit une phrase qui m'a vraiment choquée. Elle m'a dit, quand je suis enfant, je ne peux pas être malade. Je dis, pourquoi? Une personne qui me soigne, elle me dit ça. Parce qu'elle ne parle pas le français. Du coup, je me suis dit, oui, je suis un médecin, pourquoi je ne vais pas soigner ma mère? Du coup, j'ai rapproché. Du coup, j'ai quitté Forbach, Kerbach. Je suis allée habiter à Logne, après à Torcy. Et tout ça, c'est, franchement, j'ai l'impression, et c'est dans l'année-là, après, j'étais touchée par l'évangile et je me suis convertie. Ensuite, il y a Clément qui suit et c'est vraiment merci Seigneur, quoi. C'est tout et c'est pour ça que ça me fait un peu penser à Abraham, là. Dieu a dit quitter ton pays, ta famille et tout. Et après, vraiment, pour la médecine, pareil. J'ai réussi la médecine. C'est vraiment pas pour, après, à l'époque, quand j'ai choisi, j'ai pas pensé que ça va gagner l'argent ou ça. J'ai seulement pensé à, je veux être un travailleur indépendant. Je n'aime pas d'être dépendant des autres. Je n'aime pas commander les autres. Surtout non plus commander par un autre. Et aussi aller, vous savez, à mon époque, 1979, après le bac, tu vas t'inscrire à l'infirmière, l'assistante sociale, tout ça, il n'y a pas besoin de passer le concours. Tu t'inscris, t'es pris. Ma copine qui est Christine, qui s'est occupée de moi, elle est allée faire l'infirmière. Donc je suivais bêtement, je suis inscrite, je suis prise. Mais après, je me suis dit, toi, infirmière, tu supportes pas d'être commandée par les médecins. Donc, il vaut mieux t'aller faire médecine. Voilà, c'est tout. Mais maintenant, avec ce qui m'arrive après, j'ai vu qu'en étant médecin, la première personne que je me sers, c'était moi. Et après, c'était ma mère. Après, c'était déjà mes enfants et mon père. Parce que mon père, il a eu vraiment, il était pas malade du tout. Quand il est malade, c'est quelque chose de grave. En 3 mois, il est parti. Et à la fin de sa vie, il était dans le coma. Et si tu veux, si c'était quelqu'un d'autre, il serait dans un soin palliatif, en fait, à l'hôpital, attend à partir, quoi. Mais ma mère m'a dit, je ne veux pas voir ton père aller dans le soin palliatif, je veux le garder à la maison. Elle veut que mon père décède à la maison. Donc, comme moi, je suis médecin, j'ai pu le faire. Donc, je le gardais à la maison jusqu'à son départ. Et je me suis dit, si je ne suis pas un médecin, aucun médecin ne l'accepte pas. Parce que là, il faut aller voir le patient matin et soir. Et programmer les soins et tout ça. Parce qu'il ne boivait plus, il faut surtout, quand il ne boit pas, il faut ramener un peu d'eau pour qu'il ait au moins 500 cc d'eau. Pour ça, il peut vivre la personne. Bon, c'est pour ça que je me suis dit, Seigneur, c'est franchement, si j'aurais pas été médecin, mon père serait déjà allé mourir dans le soin palliatif. Et voilà. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, rends grâce au Seigneur. Donc, vraiment aussi, quand vous parlez, je vous encourage de vraiment voir les bienfaits de Dieu dans votre vie, mais pas seulement dans votre vie à vous, dans la vie des autres. Vraiment le dire aux autres. Pour qu'ils puissent vraiment comprendre que Dieu agit et Dieu est vivant, quoi. Alors, pourquoi être reconnaissant? Excusez-moi, j'ai un peu dépassé le temps. J'ai un peu affolé. Alors, pourquoi être reconnaissant? Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Il y a la Pâque, il a donné aux Israélites de célébrer la Pâque, de faire rappeler à la génération suivante, tout ce que Dieu a fait pour eux. Et c'est, pour moi, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, c'est une attitude logique. C'est une réponse à l'amour de Dieu, au sacrifice de son Fils. Il faut vraiment qu'on pense, qu'on a chanté, Jésus est allé à la croix pour mon péché, pour ton péché. On doit être condamné à mort, mais Dieu est tellement amour, il ne veut pas nous voir aller à l'abattoir, être séparé complètement toujours avec lui, il a envoyé son fils mourir à la croix pour moi et pour toi. Dans l'ascension, condamnation à mort, il est tombé sur Jésus-Christ. Et nous, par notre foi en Jésus, on est libéré de cette condamnation. Donc, vraiment, si on n'est pas reconnaissant envers Dieu, on est pire qu'un animal. Je pense toujours au cheval. Il est vraiment l'animal assez loyal envers son maître. Même un cheval, il est loyal jusqu'à sa mort à son maître. Et nous, on devrait, moi, vraiment être loyal, reconnaissant envers notre Seigneur. Alors, penser, compter les bienfaits de Dieu dans notre vie peut nous aider beaucoup de choses. Nous faire connaître qui est Dieu, qu'il est juste, qu'il est fidèle, son amour, sa compassion. Il est lent à la colère. Et même des fois qu'il nous corrige, c'est pour notre bien. Et aussi connaître son jugement. Si on n'est pas son enfant, on sera séparé complètement de lui. Se souvenir de compter ses bienfaits, ça nous fait aussi savoir qu'on a chanté aussi qu'il ne change pas. Alors dans notre monde d'aujourd'hui, tout se change tout le temps. Les modèles des portables, des modèles de tout, tout change. Ça change tout le temps. On ne sait plus quoi qui suivent, voilà. Mais notre Seigneur, il ne change pas. On sait qu'en lui, nous avons vraiment la constance. Et je trouve que c'est important pour nous, chacun, de retenir les versets bibliques, vraiment enregistrés dans notre mémoire. Et en cas où on a des doutes, on a des découragements, rien que méditer la parole de Dieu dans notre mémoire, moi, ces deux versets-là, c'est ça. Même si, David, il a dit, hein, même si mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me accueillera. Là, le Seigneur dit à Esaïe, de dire aux Israélites, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Donc, frère et sœur, tout à l'heure, on a dit, c'est dur de remercier Dieu en toutes circonstances. Surtout quand tout va mal, quand tout semble s'écrouler, quand tout le monde nous quitte, quand, comme dit Jésus-Christ, quand tous ses disciples quittent, le trahissent et tout. Pensez aux versets de la Bible, ça nous aide à tenir debout. Et aussi, pensez à ce que Dieu a fait dans votre vie. Il agit toujours pareil. Même la maman, elle peut oublier son enfant, mais Dieu ne l'oublierait pas. Josué, quand il a remplacé Moïse pour aller à Canaan pour combattre les pays païens, il doit avoir la trouille parce que c'est quand même une tâche très, très importante. Mais Dieu est apparu à lui et lui a dit plusieurs fois, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Je crois ça, on peut le prendre pour nous. À chaque fois, on croit que Dieu nous abandonne, que Dieu n'est plus avec nous, ou bien que tous les frères et sœurs, ou même tout le monde, nous laisse tomber. Mais Dieu, il est là, il est toujours là. Retenez cette phrase. Je ne te délaisserai pas. Je ne te t'abandonnerai pas. Ça, c'est moi, je le prends pour vraiment ancrer. Parce que ça arrive des fois. J'ai un doute. Je me suis dit, est-ce que c'est le Dieu que je crois, est-ce que c'est réel ou c'est pas réel? Mais le fait de vous voir, votre foi, et avoir des études bibliques chez nous et tout ça, que c'est vraiment réel, ça me rappelle que c'est réel, je suis pas en train de rêver. Parce que ce qu'on vit, ce qu'on fait, c'est tellement différent de ce que le monde nous recommande, quoi. On vit à contre-courant de ce que le monde vit. Et voilà, quand je lis les versets, quand je vous vois, vous êtes là, vous êtes des témoins vivants devant moi. Donc, je remercie le Seigneur et je pense aux autres, les professeurs, tout. Ça me dit que c'est réel, ça existe. Et j'arrête pas d'avoir aussi, moi, mes versets, c'est Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute l'âme de mes yeux. Voilà. Et puis, compter les bienfaits du Seigneur, pas seulement pour nous, mais partager avec d'autres. Pour dire aux autres ce que Dieu a fait dans ta vie, comme dit Jésus à celui qui l'a guéri du démon. Parle avec aux siens pour qu'ils voient que ce que le Seigneur agit dans ta vie. Ça nous donne envie d'évangéliser, de parler de ce Dieu qui est mort pour nous, qui a sacrifié sa vie pour nous sauver. Nous qui méritons rien du tout. Attends, pour conclure, nous, nous sommes tous pécheurs, condamnés à mort, à souffrir, à être séparés de Dieu. C'est le jugement pour ceux qui ne acceptent pas Jésus. Mais à cause du grand amour qu'il nous a aimés, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Il nous pardonne, nous donne la paix avec Dieu le Père, et Dieu nous adopte comme ses enfants. Il nous donne son esprit pour guider notre vie, pour être son disciple, pour dire non à la tentation, pour ressembler à Christ chaque jour, jour après jour. Il nous promet un monde sans péché, sans la mort, et la vie avec lui plus tard quand Jésus revient. Donc c'est vraiment un super cadeau qui tombe du ciel, qui mérite qu'on soit reconnaissant envers lui. Si on n'est pas reconnaissant, je pense qu'on est pire qu'un animal. Alors, vraiment, tous ensemble, encourageons-nous ensemble, toi et moi, à vraiment avoir un cœur reconnaissant au Seigneur en toutes circonstances. Pas quand tout va bien, pas pendant que les fêtes, mais surtout quand tout va mal. Quand on perd quelqu'un très proche, quand j'ai perdu mon père, je n'ai pas pleuré et je me suis dit, est-ce que je suis normale ou pas normale? Mais je n'ai pas pleuré parce que je sais que mon père, je le verrai par la suite. Et c'est pour cette raison que j'ai pas pleuré, mais bon. Et j'ai vu les autres pleurer, ma soeur pleurer, ma mère pleurer, mais moi je pleure pas. Je me suis dit, Seigneur, je suis un peu spéciale. Pour vous dire, hein, c'est franchement, avec le Seigneur, on peut surpasser des choses que c'est pas de nous, quoi. Voilà. Prions ensemble. Seigneur, merci pour le don de la vie de ton Fils à la croix. Porter nos péchés sur lui, Seigneur. La condamnation à mort est tombée sur lui, à la place de tomber sur nous, Seigneur. Et que par notre foi en lui, Seigneur, tu nous donnes le pardon, tu nous donnes la vie spirituelle nouvelle avec toi, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Et donne-nous vraiment cette envie de ressembler à ton Fils chaque jour, de plus en plus. Donne-nous, Seigneur, un cœur humble et doux, et vraiment un cœur reconnaissant, Seigneur, et obéissant, te respect, te craint, et vraiment pour que tout le monde qui voit notre conduite puisse te rendre gloire, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.